Bonjour à tous, bienvenue à votre Ciné Brunch. Mon nom est Jim Boulay, je suis en compagnie, comme chaque semaine, d'André-Jean Rouleau et de Mélina Lopez-Nadeau. Bonjour!
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 Et cette semaine, c'est un autre Ciné Brunch qui commence, un autre magazine de cinéma pour vous. Et on va faire pas mal de choses dans cette émission. On va notamment accomplir une chose qu'on n'avait pas fait depuis un certain temps, la critique commune d'un film québécois. Cette fois-ci, ce sera le film Impetus. On va en parler un peu plus tard, et en fait, dans la deuxième demi-heure d'émission. Et sinon, André-Jean, de ton côté, tu as vu un film de claustrophobie, là, un film d'évasion, on pourrait dire.
Oui, en fait, c'est le film, effectivement, Jeu d'évasion, hein, reprise de, Escape Game. Qui est au cinéma, de la maison du cinéma, encore, toujours.
Bon, c'est merveilleux. Mélina, de ton côté, tu as été voir...
J'ai été voir le film « Si Beale Street pouvait parler », donc une adaptation d'un roman de 1974, donc voilà.
Bon, merveilleux. Et de mon côté, j'ai été voir « Sous un autre jour », donc la version française du film « The Upside », qui est une refonte, en fait, du film « Les Intouchables ». On va parler de tout ça un peu plus tard, mais juste avant, quelques nouvelles, Mélina.
Oui, en fait, moi, j'ai une nouvelle série qui a été annoncée par Netflix. Donc, un sitcom, une comédie de situation de Steve Carell et Greg Daniels, qu'on connaît pour The Office. Et quand même, le clou de la nouvelle, c'est qu'ils ont été inspirés par nul autre que Donald Trump pour cette série-là. Donc, il y a un teaser qui est sorti sur Internet où c'est simplement du texte sur une image fixe avec de la musique. Puis là, comme on est aventuré à Cinébrun, j'ai décidé de vous en faire une version audio parce que on est à la radio et que c'est visuel. Donc, Jim, tu peux partir la petite musique.
D'accord.
Le 18 juin 2018, le gouvernement fédéral annonce la création d'une 6e division au sein des forces armées américaines. L'objectif de cette nouvelle section? Défendre les satellites contre des attaques et exécuter diverses missions liées aux opérations spatiales. Plus ou moins. Voici l'histoire des hommes et des femmes engagés dans cette aventure. Par les producteurs de The Office, blablabla. Donc, la bande-annonce continue en disant ça. Mais voilà, donc ça serait disponible exclusivement sur Netflix. Ça va s'appeler Space Force. C'est donc une comédie de situation, comme je disais, sur l'environnement de travail des employés qui seraient chargés de créer cette fameuse 6e branche militaire qui a été véritablement annoncée par Donald Trump en juin 2018.
C'est intéressant, c'est vraiment intéressant.
Donc, ça l'a inspiré, ces deux-là, donc Steve Carell et Greg Daniels. Donc, ça risque d'être un peu comme The Office, donc on va se retrouver dans un environnement de travail avec un thème qui est très absurde, mais aussi très réel. Je pense que c'est une façon pour eux aussi de se moquer de l'absurdité, peut-être, du président américain.
Oui, puis on va se le dire, là, Steve Carell est partout. Là.
Il est partout, il va jouer aussi dans la série. On disait qu'il pourrait recevoir jusqu'à $1 million par épisode parce qu'il va jouer et produire là-dedans.
C'est la magie de Netflix.
Voilà, mais je pense que ça va être très drôle. J'ai hâte de voir si le président américain va répondre... quand la série va être sur les ondes de Netflix par quelques tweets un peu colériques.
Assurément.
Probablement, oui. Excellent. Merci beaucoup, Mélina. André-Jean, de ton côté?
Oui, moi, j'ai décidé de vous parler du PCCQ, qui en est à sa 8e édition actuellement. Hein. Mais qu'est-ce que le PCCQ? Je vois dans vos yeux un regard interrogatif, mais non.
Le prix quelque chose canadien?
En fait, québécois. Le prix collégial du cinéma québécois, exactement. Voilà. Je me dévoile encore. Écoutez, c'est comme je le disais, on en est à la 8e édition. Actuellement, le PCCQ a un objectif, c'est de permettre aux jeunes étudiants collégiens, en fait, de 52 collèges à travers le Québec, finalement, donc permettre aux étudiants de se sensibiliser au cinéma d'ici et de développer leur sens critique ainsi que leur habileté à défendre un point de vue, en fait. Il y a vraiment une mission pédagogique derrière qui est prise parce que, bien sûr, c'est sous tutelle en partie de certains professeurs du collégial, des représentants, donc, du... de tous ces cégeps qui vont avoir visionné les films qui ont été sélectionnés, sur lesquels je vais revenir dans un instant, vont se rencontrer à Montréal le 29 et le 30 mars afin de délibérer et de choisir le lauréat 2019 au cours d'une journée là, de débat et de discussion, finalement. Un grand complice du PCCQ depuis sa toute première édition, c'est Québec Cinéma, un organisme auquel je suis très sensible parce que, effectivement, vous me connaissez au niveau de mon regard sur le cinéma québécois. Ce qui risque d'être intéressant plus tard en deuxième partie d'émission. Absolument. Mais en fait, c'est ça. Ça consiste à. Le Québec Cinéma va accueillir le 5 à 7 du PCCQ ou du Prix collégial de cinéma québécois. À la Cinémathèque, c'est le 22 février. C'est vendredi le 22, en fait, à la Cinémathèque québécoise qui aura une présentation des 5 finalistes. Les représentants des films vont être là, en fait. Et ça sera retransmis en direct sur leur page Facebook, la page Facebook, bien sûr, de Québec Cinéma. 5 films ont été sélectionnés actuellement. On parle de Chien de garde de Sophie Dupuis, de Claire l'hiver de Sophie Bédard-Marcotte, Manic de Kalina Bertin. Et les films Happy Face d'Alexandre Franchi et Les faux tatouages de Pascal Plante. Donc, ça risque d'être quelque chose de fort agréable. Et je vous invite tous, donc, le 22 février, à aller vous rincer l'œil pour vous donner une idée. Pour l'instant, est-ce qu'on aura accès? Je n'ai pas réussi personnellement à trouver les films actuellement, mais je sais que, bon, moyennant quelques coups, il y a possibilité de se les taper sur certains films, certains sites québécois.
Bon, excellent. Merci beaucoup, André-Jean, de toujours avoir cette flamme pour le cinéma québécois. C'est intéressant. Et de mon côté, ben moi, je vais sortir complètement du cinéma québécois pour me diriger en Europe. En fait, parce que vous vous souvenez quand je vous ai parlé de la polémique qui entourait le film OSS 117-3? Eh bien, en fait, ben André-Jean, tu ne dois pas t'en souvenir, tu n'étais pas là, c'est l'air Louis. Mais dans tous les cas, en 2018, là, Michel Hazanavicius, qui était le réalisateur et même scénariste d'un des deux films, là, Le Carnet d'espions et Rio ne répond plus, ben, il avait boudé le scénario qui avait été proposé pour le troisième film et avait plus ou moins quitté le projet l'année dernière. Ben, excellente nouvelle, je suis un petit peu en retard là-dedans, ça m'a passé un peu sous le radar. Jean Dujardin a finalement annoncé il y a deux semaines que le tournage du troisième film de la série OSS 117 allait commencer à l'automne. Donc, on ne sait pas encore avec certitude qui va réaliser le film. Mais ça ne peut que bien se passer avec le personnage sexiste et complètement décalé d'Hubert Bonisseur de la Batte. Donc voilà, c'était les nouvelles. Voici votre Cinébrunch. André-Jean, tu as été voir un film qui s'appelle « Jeux d'évasion ».
Oui, tout à fait. En fait, qui est sorti à la Maison du cinéma le 4 janvier. Il est toujours accessible. En fait, on parle d'un suspense psychologique américain réalisé, bien sûr, par Adam Robitel, le fameux réalisateur américain. En fait, acteur, scénariste et réalisateur.
Ça me dit vraiment rien, cet homme-là.
Non, ben en fait, je vais essayer de vous rappeler. Il est connu pour « La dernière clé » qu'il a fait en 2018, qui m'a absolument rien dit. Mais par contre, le dernier, c'est Activité paranormale, La dimension fantôme en 2015.
Donc, moi, j'ai vu passer, mais je n'ai pas été le voir.
Non, c'est ça. Ça touche. C'est pour une certaine clientèle, on va se le dire. Donc, ma foi, à quoi s'attendre de M. Robitel. Belle brochette d'acteurs quand même. On a une majorité d'Américains. Deborah Ann Wool, Taylor Russell, Logan Miller, la Sud-Africaine Jessica Sutton, la Canadienne Tyler Labine, le
mais
Canadien.
C'est un vrai nom de famille, Labine.
Oui, mais c'est le Canadien, excusez-moi, Tyler Labine, et l'Américain Nick Dodani. Donc, je vous invite sur ce à aller voir ou à aller plutôt entendre la petite bande-annonce. Little boxes on the hillside. Little boxes made of ticky-tacky. Little boxes on the hillside. And they all look just the same.
Cette carte est un billet d'entrée.
Pour les escape rooms Minos.
Question idiote. On est vraiment dehors, là?
Ils nous observent, ils épinent nos moindres faits et gestes.
Aide.
Survivre est un choix.
Je veux sortir, laissez-moi sortir d'ici.
And they all look just the same.
Donc, pour ceux qui viennent de se joindre à nous actuellement, vous venez d'entendre la bande-annonce, bien sûr, de Jeux d'évasion.
On reconnaît bien le style de la bine dans la bande-annonce.
Pour ceux qui, c'est ça. Pour ceux qui peuvent comprendre cette merveilleuse blague de Jim, je vous envoie le synopsis. Six inconnus, donc aventureux, se rendent dans un bâtiment mystérieux pour découvrir la salle d'évasion, un jeu dans lequel les joueurs s'affrontent pour résoudre une série de puzzles et gagner 10 000 $, ce qui commence par un amusement apparemment innocent se transforme rapidement en un cauchemar lorsque les quatre hommes et les deux femmes découvrent que chaque pièce est un piège complexe faisant partie d'un jeu sadique de vie et de mort. Papa, c'est...
Non, finalement, ça ressemble juste, dans ton résumé, là, à pas mal tous les films d'horreur qui ont été faits dans des maisons
pendant les 15 dernières années.
Là.
Pas, même plus précisément, j'irais jusque-là. Je sais pas si certains, je me rappelle pas l'année exactement, j'ai pas fait mes devoirs de ce côté-là, mais certains se rappelleront peut-être de The Cube, qui était, bon, pas un jeu d'évasion, mais un endroit où, bizarrement, les gens reprennent conscience dans des pièces qui sont toutes cubiques et dans lesquelles on peut évoluer, en fait, qui semblent faire partie d'un immense cube. Et là, donc, l'objectif étant de sortir, bien sûr. On tente, en fait, de réinventer la chose. Malheureusement pour moi, ça n'a plus ou moins marché. C'est-à-dire que je vais être honnête, ça sera probablement la première fois que les auditeurs vont m'entendre aussi vindicatif sur une critique. Je vais tenter quand même de ne pas manquer de respect à personne, hein, ni à Labine, ni bien sûr à Adam Robitel. Regardez, c'est très personnel comme appréciation. Il faut quand même lui donner les plans de vue. Il y a un paquet de plans de vue qui servent bien leur cause au niveau des ambiances, finalement, des différentes scènes. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, il y a une tension. Que la tension monte, les personnages réalisent l'ampleur de la gravité de leur situation. Même chose au niveau de la trame sonore, j'ai rien de négatif à dire de ce côté-là. Ça appuie très bien la tension qui se construit tout au long du film. L'établissement de la situation initiale est un peu court à mon point de vue, mais il faut quand même que je leur donne, dans un contexte comme ça, on n'a pas besoin d'avoir trop de développement personnel des personnages, c'est-à-dire que ça va se faire au fur et à mesure. On va apprendre à connaître chacun des personnages pour pouvoir s'identifier tout au long du film, finalement. Dans le sens où c'est pas une nécessité non plus que ce soit plus détaillé. Mais j'ai quand même trouvé ça un peu court. Le jeu d'acteur m'a semblé un peu inégal, par contre. Hein. Il y a des acteurs, des actrices qu'on a déjà vus un peu ailleurs, qui sont tout à fait à la hauteur de leur personnage, mais qui, pour une raison obscure que je ne nommerai pas, disparaissent rapidement dans le film. c'est pas parfait. Dans les six, là, je dirais que ça paraît qu'il y a un peu d'inégalité au niveau du jeu. Ça m'a un peu irrité. La fin... faut que je leur donne aussi. C'est une fin agréablement surprenante, en fait, au niveau de la tournure de la finale. Sans vouloir vous donner plus de détails, hein, vous irez vous rincer l'œil vous-même. De façon personnelle, à mon point de vue, c'est un peu une espèce de remake ou de tentative de refaire des histoires qu'on a déjà vues. Puis je veux pas... Il y a des bévues. On voit que c'est clairement pas un film qui a des budgets de mongols ou etc., mais c'est quand même bien fait. Je veux dire, le principe, c'est que malheureusement, je suis incapable de lui donner un score plus intense que 6.5, et même, je dirais, 6.5 sur 10, compte tenu qu'il y a un effort de réinventer le tout. En fait, c'est la finale qui a changé ma note, parce que ça aurait pu être encore plus négatif, finalement, mais la finale se veut quand même une ouverture sur une potentielle suite.
Est-ce qu'on en veut vraiment une?
Personnellement, totalement non. Hein, ce n'est pas une nécessité, même que je trouve qu'il y aurait un certain charme à laisser ça ouvert comme ça et qu'il n'y ait jamais de suite, mais telles que sont les productions américaines, il est fort probable qu'on tente d'étirer la sauce. Et il y aurait sûrement quelque chose à faire avec ça, parce que, bon, on a appris à connaître quand même deux personnages de façon un peu plus profonde. Cela dit, c'est ça. Je vous dirais que comme film d'horreur, il y a d'autres options, hein, ouais. Mais c'est ça. C'est très personnel, là. Je trouve qu'on est... On, depuis quelques temps, on est beaucoup, je trouve, dans le « on tente de refaire des choses ». Eux, contrairement à juste un remake, hein, là, je pense à, disons, « It » de... Ouais. De voyons,
ben, des fois, c'est bon. Stephen King, des fois, les remakes sont meilleurs que les originaux.
Oui, mais tu sais, il y en a plusieurs qui ont sorti là, fin 2018. Mm-hmm. Même, c'est quoi, ceux qui réaniment les gens, là? Je me rappelle plus du...
Ah oui, les Flatliners.
Tu sais, il y a eu plein de revues comme ça où c'est directement le même scénario qu'on reprend avec des nouveaux acteurs, etc. Je veux dire, de ce côté-là, au moins, il faut que je leur donne. C'est vraiment jeu d'évasion. On tentait de faire quelque chose d'autre avec hein, les jeux d'évasion qui sont plus populaires depuis un certain temps.
Absolument.
Mais on garde... En fait, c'est le même concept de base et je dois avouer que ça m'a plus ou moins satisfait. Donc, 6.5 sur 10 en ce qui me concerne.
Mais quand même, je m'attendais à ce que tu ailles plus vers un 2 sur 10 quand tu nous parlais que tu allais...
Non, mais c'est parce que je vois pas la nécessité. Il y a quand même eu de l'effort de mis là-dedans. Même si le jeu d'acteur est totalement inégal, les techniques là, d'enchaînement de scènes, de trames de son, de divers plans, tout ça, c'est bien exécuté, je vous dirais sans plus. C'est, en même temps, je comprends, c'est pour ça que j'y vais pas plus rough que ça. C'est déjà dur de dire « je fais un film en reprenant un concept comme ça ». Donc, c'est ça. Je vois pas non plus de raison de m'épancher plus sur la souffrance que j'ai dû vivre en allant voir.
Je pense que le message a quand même passé. Là,
c'est un point de vue très personnel hein, que je partage.
Mais c'est sans doute ta deuxième plus basse note depuis que tu es à Cinébrunch avec nous, il me semble.
Oui, j'ai jamais été aussi sévère que ça, en fait. Ça, je pense que le plus bas que j'avais donné, c'était 7. Là, bon. C'est ça.
Bon, enfin. Merci beaucoup, André-Jean.
Un plaisir.
Merci. Cette semaine, j'ai été voir pour vous le film « Sous un autre jour ». C'est en fait la version française du film « The Upside », une refonte, pour ne pas dire un remake américain, de l'excellente comédie dramatique française de 2012, réalisée par le duo Olivier Nakache et Éric Toledano. Je parle bien sûr des Intouchables. « The Upside », c'est en fait une production américaine, comme je le disais, réalisée par Neil Berger, qui a réalisé en 2014 le premier film de la série « Divergent », peut-être pour le placer.
Oui.
Et quelques années auparavant, le film Limitless avec Bradley Cooper et Robert De Niro. Sous un autre jour où The Upside, en anglais, met en vedette pour remplacer l'incroyable performance d'Omar Sy dans la version de 2012, Kevin Hart, qui joue systématiquement dans des films que je veux pas voir. Mais heureusement, Bryan Cranston, qu'on associe instinctivement au personnage de Walter White dans Breaking Bad, est aussi présent dans le film. Donc, il joue en fait l'homme handicapé.
Ah, c'est vrai?
Qui est interprété, oui, par...
J'avais même pas reconnu sur les affiches ni la bande-annonce, rien.
Moi non plus. Ben, en fait, j'avais reconnu de nom, mais sur le coup du moment, j'avais pas vu là, j'avais pas vu tout de suite. Puis pourtant, on va se le dire là, que cet homme-là, malheureusement, est associé à vie au personnage de Walter White. Là, c'est certain. Là, on peut rien y faire. Donc voilà, on va arrêter de niaiser. On écoute la bande-annonce.
Vous devez prouver que vous cherchez du travail.
Ouais, ben cherche, croyez-moi.
3 signatures pour demain ou vous irez.
Quelqu'un que vous aimerez.
Laissez-moi être vos bras et vos jambes.
J'adore ça.
Signez ça, s'il vous plaît.
Comment je ferai ça?
J'en sais rien, moi. Lentement. Quoi, vos bras bougent pas?
Non, en effet.
Votre bouche, elle bouge bien.
Autant que la vôtre.
J'ai besoin d'assistance.
Combien ça paye? Ah ouais? Oh, je m'excuse, je suis désolé.
Vous n'avez pas les qualifications pour ce poste. Oh. La ceinture, la ceinture!
Avez-vous déjà changé un cathéter?
Non.
Pincez la tête, insérez.
Je ne ressens rien.
Oh. Ça, c'est moi quand je suis relax!
Alors, ben, l'histoire de ce film The Upside ou Sous un autre jour, si vous avez vu Les Intouchables, je vais être assez bref, c'est exactement le même film, mais moins bon. C'est un riche homme d'affaires milliardaire devenu tétraplégique, suite à un accident de parapente, rencontre un nouvel auxiliaire de vie, Del, c'est le nom qu'on lui donne dans ce film-ci, un homme noir sorti de prison et au passé un peu trouble. Les deux trouveront dans l'autre un second souffle. Et c'est littéralement un copier-coller du premier film, sauf peut-être deux points principaux. Donc, la fin du film qui essaie de nous surprendre, autant que l'américanisation du film puisse le permettre, disons. Et le deuxième point, ben, c'est le passé de Del. Donc, le personnage du prochain an qui est interprété par Kevin Hart, qui est un peu différent. Donc, alors, je dis que c'est pareil, mais en fait, c'est un peu comme si on avait pris le film Les Intouchables, qu'on avait aspiré l'âme du film et remplacé toutes les subtilités qui rendaient le film magnifique par des éléments bruts et des clichés qui ne payent pas vraiment. Donc, c'est un peu décevant. Au moment de le voir, j'étais un peu moins fâché que ça sur le film, mais plus j'y repense, puis plus ça m'énerve un peu. Ça fait ça, des fois. Hein,
c'est, la frustration remonte.
Ben exactement.
Mais en même temps, ça aurait été très difficile de faire mieux que Les Intouchables, qui est un film extrêmement touchant. Hein, on va se dire.
C'est même, pour ne pas dire, intouchant.
Ouais, c'est ça. Hein? Voilà.
Mais non, mais sans blague, trêve de plaisanterie.
Ça aurait été dur de faire mieux.
C'est pas une adaptation, c'est vraiment un remake. Là. C'est pas un,
on vient encore dans les remakes, c'est ça.
On n'a même pas pris, parce que Les Intouchables, c'est basé sur une histoire qui est une vraie histoire, en fait, de Philippe Caro, je sais pas quoi, je pense un Italien. C'est vraiment une vraie histoire. Lui a écrit un livre par la suite de ça, et le film Des Intouchables de 2012 est basé sur ce livre-là. Maintenant, le film dont on parle, Sous un autre jour, qui est actuellement en salle, ce film-là n'est pas basé sur le livre, il est basé sur le film de 2012. Donc, on a vraiment repris l'intégralité des éléments du film. On a changé à peine des petits trucs par-ci par-là pour rendre ça plus américain. Mais franchement, c'est la même affaire. Et tant qu'à revoir la même affaire, j'aimais mieux le premier. C'est ce que je vous dirais.
Le comparatif devient difficile à ce moment-là. C'est plus difficile d'avoir une critique positive. Là.
Ben c'est ça. Mais je ne peux pas dire non plus que le film est mauvais, parce que comme c'est une copie d'un super bon film, ben ça peut pas être 100% mauvais. Donc l'intrigue en soi demeure intéressante. Je pense que c'est quand même correct de vouloir refaire des films aussi pour les adapter à notre réalité, peut-être plus locale ou plus régionale. Mais franchement, là, on gagne absolument rien dans cette version-là par rapport à l'original. Je veux absolument pas rien enlever au jeu de l'acteur Bryan Cranston, que j'apprécie beaucoup. Il joue très bien, mais malheureusement, François Clouzet, pour moi, c'est un peu comme Daniel Auteuil. Ça se remplace pas facilement. Surtout pas quand tout ce que je vois, c'est le visage de Walter White dans une chaise roulante. Donc ça, c'est sûr que ça n'a pas aidé. Mon verdict final, ça n'a pas été long comme critique, hein? Mon verdict final, je donne un 6 sur 10 au film The Upside, ou Sous un autre jour. C'est pas un mauvais film, mais franchement, le comparant aux Intouchables de 2012, c'est un dallo monumental. Si vous n'avez pas vu le film, j'entends la balle rouler là. Si vous n'avez pas vu Les Intouchables, je ne comprends pas en fait ce que vous faites ici en ce moment. Je vous recommande fortement, après l'émission, d'aller ouvrir Netflix, parce qu'il est disponible actuellement sur Netflix, ou d'aller dans votre club vidéo local, si ça existe encore, et mettez un sachet de popcorn dans le micro-ondes et laissez-vous aller pour une bonne heure et demie de plaisir, parce que, franchement, c'est un film extraordinaire.
OK.
Mais non, donc, je boude un peu ce film.
Upside Down ou Sous un autre jour, c'est... OK, on l'a échappé. Mais regarde,
Ça arrive,
c'est difficile aussi d'avoir un... Quand on a déjà un comparatif d'un... Oui. Comme tu dis, tu peux bien dire, on est passé de super bon à bon. À ce moment-là, on va pas hésiter, on va aller voir l'original.
Sans doute que je n'avais pas vu la version originale des Intouchables, probablement que ma note aurait été meilleure, parce que j'aurais pas eu ce facteur de comparaison-là. Mais il y aurait quand même quelque chose qui m'aurait achalé, je suis pas certain.
Mais c'est bien, je pense, pour le public anglophone qui, pour des barrières de langue, ne pouvaient pas voir Les Intouchables, d'avoir accès au moins à cette histoire-là, qui reste une histoire très touchante, je pense.
Absolument. Quoi qu'il est sous-titré, là, il y a moyen de le voir en anglais, mais oui, effectivement. Mais c'est pas aussi mainstream.
C'est ça. Ça permet de rendre l'histoire accessible peut-être à plus de gens.
Mais ma foi, qu'est-ce qui se passe, Jim? Aurait-on perdu notre mojo, finalement? Toi et moi, on détruit
généralement. Je sais pas. En même temps, est-ce que 6 sur 10, 6.5 sur 10, c'est une destruction?
Non, faudrait se poser la question.
C'est pas destruction,
mais c'est
moyenne,
beaucoup plus faible qu'on n'a jamais fait. Est-ce que ça ira mieux avec Mélina? C'est ce que nous verrons en prochaine heure.
Absolument. Alors voilà, justement, c'est le moment des sorties.
C'est le moment des sorties cinéma.
Je suis sorti avec mes...
Cette semaine, au cinéma... Belle et Sébastien 3, le troisième volet de la série de films Belle et Sébastien.
Sébastien, on avait dit pas dans la chambre. Hein.
Je sais pas du tout comment ils sont arrivés ici. Il est où l'autre?
Sébastien, qu'est-ce que tu fais? Tu vas être en retard à l'école.
Le chalet de César, tu connais?
Je peux vous emmener si vous voulez.
Vous avez déjà regardé Joseph dans les yeux? Dans son regard, il n'y a que le vide et la mort.
Mais ça fait plus de 4 ans que je la cherche partout, ma chienne.
Ah, qu'est-ce qui me prouve qu'elle est à vous?
Cette chienne est à moi.
Les chiens, ils sont à personne. Ils suivent ceux qu'ils aiment.
Il faudrait qu'on parle des chiots aussi.
Des histoires inventées, un documentaire sur le réalisateur et scénariste québécois André Forcier.
C'est étonnant qu'on parle toujours des personnages d'André Forcier comme des désœuvrés. Pourtant, ils sont toujours actifs, t'sais. Ils sont déguinglandés, mais ils sont pas inactifs. En tout cas, ils peuvent pas être inactifs, ils rêvent.
L'enfant qui voulut être roi. Alex, un écolier britannique de 12 ans, découvre l'épée mythique Excalibur.
Alex, tu vas être en retard!
Ok, ok! Oh non!
Tiens.
Merci, maman.
Un pays n'a de valeur que si ses chefs en ont.
Aidez-moi, s'il vous plaît! Hé, hey, laissez-le tranquille!
Un vrai roi est courageux et noble.
Joue pas au héros. C'est moi le roi ici.
Tu as encore main combat à livrer.
Incapable de courir plus vite!
On va t'attraper!
Maintenant, tu dois choisir ce que tu vas défendre.
Beders, faut que tu vois ce que j'ai trouvé. Il y a une inscription sur la garde, mais là dans Google Traduction. Ça veut dire l'épée d'Arthur. Et si t'étais la seule personne capable d'avoir retiré l'épée? Et si c'était Excalibur?
La guerre froide, un film polonais sous-titré en français, qui se déroule de 1949 à 1964 et qui raconte une histoire d'amour compliquée entre un musicien polonais exilé en France et une chanteuse fantasque.
Dwa serduszka, cztery oczy. Oj, oj, oj. Co płakały we dnie w nocy. Oj, oj, oj.
Lola et ses frères, une comédie dramatique française.
Pierrot, qu'est-ce que tu fous? Rappelle-moi, s'il te plaît.
Alors?
Répondeur.
Ah non, mais c'est pas vrai. C'est bien ton frère, ça, hein?
Parce que c'est pas ton frère, peut-être?
Oui. Il est 14h.
Ah, écoute, j'ai eu que des galères. Franchement, je suis désolé.
Je suis si heureux pour mon frère et ta femme. Sandra?
Si j'ai quelque chose d'important à vous dire. J'ai rencontré quelqu'un et je suis amoureuse.
Non, tu t'emballes.
Lola m'a dit que vous vous êtes rencontrés au boulot.
Moi, je divorçais et Lola, c'était mon avocate.
Et même qu'il va se remarier.
Avec qui?
Avec sa mère.
Sérénité, un suspense américain avec Matthew McConaughey et Anne Hathaway.
J'ai l'impression que c'est le grand jour.
C'est le grand jour aujourd'hui. J'aurais juré que je l'avais épuisé. Je le sentais dans mes mains.
C'est ma tournée. Contente de te voir, John. Alors, quoi de neuf?
Pour commencer, je m'appelle plus John.
La vie est drôlement faite, hein?
Comment tu m'as trouvé et qu'est-ce que tu me veux?
J'ai entendu dire que t'as un bateau. T'avais raison, à propos de Frank.
Il est violent avec toi.
Qu'est-ce que c'est que ça?
Rien qu'une égratignure.
Une égratignure, hein?
Je veux que tu l'emmènes sur ton bateau et que tu jettes par-dessus bord pour les requins.
Une affaire de famille, un drame japonais sous-titré en français. C'est tout pour les sorties cette semaine.
Vous écoutez toujours Cinébrunch en compagnie de Jim Boulay, André-Jean Rouleau et Mélina Lopez-Nadeau. Et aujourd'hui, on va faire une critique commune d'Impétus, le film québécois. Mais juste avant, Mélina, tu as été voir « Et si Bale Street pouvait parler ?»
Exactement. Donc, c'est basé sur un livre, le livre de James Baldwin, qui est sorti en 1974, et c'est réalisé par Barry Jenkins, dont le film Moonlight a gagné plusieurs prix, notamment le score du meilleur film en 2017. Je ne sais pas si vous en rappelez un peu, mais ça avait été remis dans un chaos considérable parce qu'à la cérémonie des Oscars en 2017, il y avait eu une erreur et on avait remis la mauvaise enveloppe.
Ah, mon Dieu, oui, l'affaire de, pas de Lady Bird, mais de...
Mais il y avait annoncé La La Land comme gagnant.
Oui.
Et là, finalement, ils sont tous montés sur la scène pour finalement que les producteurs du spectacle arrivent et disent « Non, c'est le film Moonlight ». Bref, c'est ça, c'est lui qui avait réalisé ce film-là, qui avait gagné plusieurs prix, là, de nombreux prix en 2017. Dont justement le prix qui est considéré comme le plus prestigieux de la soirée, en fait. Donc, il nous revient avec un nouveau film qui est comme Moonlight, c'est un scénario qu'il a lui-même adapté. Et il y a donc Kiki Layne et Stephen James qui jouent le jeune couple que l'on va suivre et la mère de Tish qui est vraiment jouée avec brio par Regina King, qui est, selon moi, la meilleure performance du film. Là, vraiment, quelque chose de très, très bon comme performance. Donc, avant de rentrer plus dans le film, on va aller écouter la bande-annonce.
Est-ce que t'es prête?
De toute ma vie, je n'ai jamais été aussi prête que maintenant.
Levons-nous vers à cette nouvelle vie. Tish va avoir l'enfant de Fanny.
J'espère que c'est un garçon. Allez, viens voir ton père.
T'es une bonne fille, et je suis fier de toi.
Et qui sera responsable de cet enfant?
Son père et sa mère.
On connaît Fanny depuis toujours. Et il va payer pour une faute qu'il n'a pas commise.
Ce sont nos enfants.
Donc, ça se déroule à New York dans les années 70. Donc, si Beale Street pouvait parler, raconte l'histoire de Tish, une jeune femme d'Harlem qui tente de prouver l'innocence de son fiancé dont elle est enceinte. Fanny, son fiancé, est emprisonné et en attente de procès pour viol, un crime qu'il n'a pas commis. Et, parenthèse, dans le film, le réalisateur ne laisse pas de doute quant à l'innocence de Fanny. Donc, c'est un film dont l'histoire n'est pas centrée sur l'action. C'est un film d'émotion, en fait. On aborde par l'émotion différents thèmes comme les injustices sociales, le racisme, la corruption dans le système de justice, mais très peu d'action. Donc, on ne voit pas le procès, on voit très peu d'action dans le film. Des longs plans, beaucoup de gros plans sur le visage des personnages principaux pour pouvoir voir l'émotion qu'ils vivent, tout ça. C'est aussi visuellement magnifique. C'est vraiment des très beaux plans, c'est original, c'est riche. J'ai vraiment aimé comment les plans étaient colorés. C'est-à-dire que comme ça se déroule dans les années 70, bon, ben dans les maisons, tout ça, on a la tapisserie et tout ça. Donc, c'est des images assez colorées qui sont toujours très riches. Donc, voilà, tout le monde était un peu coloré aussi. À l'époque, des manteaux jaunes, des manteaux bleus, des manteaux beige. Bon, ça fait très coloré, puis ça donne des super belles images à regarder. La musique aussi, très belle, très bonne musique, ambiance sonore, c'était très artistique. Comme je dis, vraiment très centré sur les émotions. Mais c'est ça, des fois, en fait, des fois, je décrochais carrément parce que l'émotion, par exemple, venait moins me chercher dans cet arc-là du film. La salle aussi était vraiment très remplie. Il y avait beaucoup de mouvements. Donc, c'est sûr que pour moi, dans ces moments-là, c'était dur de raccrocher, en fait, à l'émotion. Donc, des fois, je ratais le bateau carrément. J'embarquais pas dans l'émotion que le personnage essayait de véhiculer. Puis là, c'est parti pour un 10 minutes où on veut faire vivre l'émotion. Donc, quand t'embarques pas, ben ça fait que c'est long un peu comme film, des fois.
OK, ouais.
Donc c'est ça. Des fois, je remarquais que j'étais plus en train d'observer le film que de vivre le film. Donc, j'étais moins... Et pourtant, je suis quelqu'un qui a énormément de facilité d'habitude à rentrer dans l'émotion des films. Dans ce film-là, des fois, peut-être que ça venait moins me chercher, je sais pas. Pourtant, les acteurs étaient bons. Je pense qu'il y avait une tâche difficile à faire, puisque un film qui est vraiment centré sur les émotions, c'est vraiment différent d'un film comme on est habitué, qui est vraiment plus centré sur l'action. Et il n'y avait pas justement ces moments-là où j'écrochais, il n'y avait pas ce petit truc d'action qui fait en sorte qu'on raccroche parce que là, tout d'un coup, on a...
Fait que si on se perdait, là, on pouvait facilement tomber là, dans les songes profonds.
C'est ça, des fois, je me perdais assez longtemps et la personne qui était assise à côté de moi, j'ai l'impression aussi qu'elle se perdait parce qu'à 4, 5, 6 reprises... J'ai vu la petite lumière. Carrément la lumière bleue du téléphone cellulaire qui s'ouvrait pour, je sais pas, regarder.
Est-ce qu'elle a droit à, elle ça, a su pas, droit à un coup de coude?
Tu regardes l'heure là, pendant le film. Là.
Tu l'as pas violenté pour avoir eu ce comportement totalement erratique?
Disons que je saisissais un peu. C'est pas le genre de film nécessairement auquel on est habitué. C'est un film qui est énormément apprécié des critiques, ça, il faut le dire. C'est un film là, qui, en ce moment, sur Rotten Tomatoes, quand j'ai regardé ce matin, il était à 95% d'appréciation. Donc, vraiment un film qui... énormément apprécié. Et pourtant, c'est pas nécessairement le genre de film auquel on est tous, ou comme on parlait un peu la semaine passée avec le cinéma américain, notre cerveau est habitué à un certain nombre d'actions, ouais, à certains rythmes, stimuli qui viennent nous chercher, qui nous attrapent dans le film. Donc là, on est dans quelque chose de différent. Quoi qu'il y en a beaucoup de films aussi centrés sur l'émotion. Le film Roma que je...
Oui, ben justement, parce que je me disais, film de la semaine dernière, t'es pas du tout à l'américaine. Là.
Exactement.
Pourtant, tu l'as bien aimé.
Pourtant, je l'ai bien aimé. Je pense que les référents culturels, je les avais plus dans le film Roma que dans le film Si Beale Street pouvait parler. Parce que... on est dans des concepts qui me touchent moins non plus. Je pense qu'il y a vraiment, il y a vraiment deux façons, dépendant de qui on est, pour voir le film. Je pense que parce que les personnages, en fait, ils sont noirs, ils sont de race noire. Donc, on voit beaucoup le racisme. On voit beaucoup pour eux aussi comment le système de justice est corrompu. Donc, c'est-à-dire que le policier raciste juste n'aime pas le gars. On met jamais l'once d'un doute que le gars n'a pas commis le crime. Et pourtant, il est emprisonné. À un moment donné, il est même, on dit peut-être qu'il va se faire exécuter. Parce qu'on est dans ces années-là, finalement.
Okay. Quelle année? Excuse-moi, tu l'as
70.
Dit tout à l'heure. OK.
Fait qu'on on a encore beaucoup plus de... Ben, je veux dire, il y en a encore aujourd'hui, clairement. Mais on est vraiment dans comment le système de justice est corrompu. On se demande si le gars va réussir à sortir de prison, à réussir à prouver son innocence pour pouvoir vivre sa vie avec sa femme et son bébé. On voit comment c'est difficile pour eux. Donc c'est sûr qu'empathiquement, ça venait me toucher, mais c'est peut-être une réalité avec laquelle je suis moins familière. Peut-être pour ça que je décrochais, contrairement au film Roma que j'ai vu la semaine dernière, que je parlais, que là, bon, venait peut-être plus chercher des référents pour moi de culture latine que j'ai. Cela peut-être moins, mais ça reste un film qui est très ambitieux, qui est visuellement très beau aussi, qui touche des thèmes intéressants, mais voilà, c'est ça. Donc pour moi, j'y vais avec un 7 sur 10, c'est pas mal plus bas que ce que les gens pensent sur l'internet, mais voilà, une critique, ça reste personnel. Voilà.
C'est sûr, et comme on est indépendant, sans nos critiques, on peut se permettre, sans aucune ligne éditoriale, de dire ce qu'on pense, et ça, c'est merveilleux.
Mais j'aime bien le concept que ce genre de film semble projeter de plus en plus souvent et de plus en plus apprécié, des films qui sont vraiment plus centrés sur les émotions. On n'embarque pas, mais on sent vraiment que le réalisateur, les acteurs, les actrices ils se mettent vulnérables face à l'écran, expriment des émotions et ils se mettent dans une position de vulnérabilité extrême et ça, c'est très touchant. C'est très différent des films centrés autour de l'action, mais j'aime beaucoup le type de film en général. Je pense que ça peut être extrêmement riche, extrêmement bouleversant. Et ça vient remplir une autre fonction de l'art qui est vraiment plus de se dévoiler et qui est plus thérapeutique que le divertissement pur et dur. Donc voilà.
Excellent. Merci beaucoup, Mélina.
Merci.
C'est le moment de faire notre critique commune du film Impetus, film québécois écrit et réalisé par Jennifer Aline et qui met en vedette, entre autres, Pascal Bussière, Emmanuel Schwartz et évidemment Jennifer Aline dans son propre rôle. On va discuter de ce film-là ensemble. On a tous été voir le film, pas tous ensemble, mais... on ne s'est pas encore consulté pour savoir ce qu'on en pensait.
Ça va donner une
surprise, une critique intéressante.
Exact.
Et je vais rapidement faire un petit descriptif, une mise en bouche du film, donc, au niveau du synopsis. Donc, voilà. C'est l'histoire de Jennifer qui vit plutôt difficilement une fin de relation avec son précédent conjoint. Elle s'en remet très difficilement. Et en tant que réalisatrice, alors qu'elle a l'habitude de mettre en scène les histoires des autres et décide de se concentrer sur sa vie et de mettre en film ses émotions, on pourrait dire ça comme ça. Donc, elle fait un tournage à New York. Son acteur qui, en fait, le personnage de son acteur, se trouve à trouver une job à New York où il doit garder un grand loft où il peut y vivre. Et dans ce loft-là, il doit s'occuper d'un lézard. Et là, bon, comble de malheur pour la réalisatrice, son acteur doit quitter, en fait, disparaît. Elle doit donc le remplacer. Et c'est là qu'arrive le personnage de Pascal Bussière qui se trouve à reprendre le rôle de l'acteur, mais en plein centre du film. C'est un film très particulier, assez unique, et j'ai hâte d'entendre vos critiques sur ce film-là. On a eu la chance, en fait, Mina et moi, de faire une entrevue après l'avant-première du film cette semaine, et on a recueilli quelques propos de la réalisatrice, mais aussi de Pascal Bussière, et on va vous en partager des extraits au cours de l'émission. André-Jean, tu n'as rien entendu de tout ça.
Non, c'est ça.
On verra dans quelle mesure ça va influencer ta critique et tout ça.
Oui, effectivement.
Et si vous voulez bien, je vais me lancer. Je veux d'abord parler du mot impétus, parce que c'est un mot que je connaissais pas avant de voir la projection. Mm-hmm. Donc, impétus, après vérification, et même c'est dit dans le film, ça signifie en quelque sorte une impulsion, une incitation, un mouvement vers l'avant. Et en regardant le film, moi personnellement, je dirais que je me sentais vraiment au centre d'une espèce de triangle hein, entre le documentaire, la fiction et le making of. Je dois dire que c'était perturbant de ne pas savoir ce qui était vrai, ce qui était de la fiction, parce que bon, on a la réalisatrice qui joue son rôle dans le film, qui traite de situations qu'elle a vécues. J'ai demandé en entrevue à la réalisatrice Jennifer Allen et à la comédienne Pascal Bussière quelle était la part de fiction et la part de vérité dans ce film-là.
Je pense que dans le film, tout est mis en scène et tout est vrai. Tout est forcément vrai parce que, d'une part, le film était un peu ça aussi, une course, un glanage en tout cas de moments de sincérité, autant chez les comédiens que chez les gens issus, disons, de la réalité des personnages plus documentaires qui sont dans le film. Je suis aussi allée vers eux pour aller chercher des moments de confidence et aussi des moments tout simples de la vie, mais où ils étaient absolument eux-mêmes. Je trouve que c'est ça qui est vraiment fascinant. Ensuite, une fois qu'on les organise dans un film, ben là, évidemment, il arrive toujours une fiction, parce qu'on est en train de construire un récit. Tout est organisé pour créer une histoire qui n'existerait pas autrement.
La frontière poreuse entre le réel et la fiction, elle est constamment en... C'est comme si on essayait de faire le foyer, hein. C'est comme des verres correcteurs, c'est comme... Il y a chez les acteurs une source où on va puiser en nous-mêmes quelque chose pour toucher une sincérité, un moment de vérité, qui peut être lui-même contaminé par la fiction. Et inversement, tout ça pour dire que même les acteurs en état de jeu se laissent prendre par la vérité de ce qu'ils sont en train de faire. Donc... À un moment donné, on ne sait plus. C'est ça qui arrive.
Vous venez d'entendre donc Jennifer Allen, qui est la réalisatrice du film Impétus, et Pascal Bussière, qui en joue le premier rôle. Et je ne sais pas si ça vous a éclairé un peu. Moi, je n'étais pas certain quand j'ai commencé à regarder ce film-là. Je me demandais vraiment où ça s'en allait au début, tout ça.
Parce que moi, tout le long du film, je trouve ça cohérent, en fait, ce qui vient d'être dit, là, parce que, sauf que je trouve pas ça cohérent avec la définition de impétus. Donc, parce qu'il y a cette espèce de switch réalité-fiction tout le temps, ou cette espèce de... Moi, j'avais interprété ça au début comme un bris de rythme, tout simplement. Ça m'a profondément perturbé, puis je me suis dit, mais je suis comme tout le temps en moment d'attente d'un départ, justement, d'un... Tu sais, j'en ai pas d'élan vers quelque chose. Je perçois qu'au tout début, bon, il y a un petit moment, la mise en situation qui nous met... où on voit là, que bon, les gens partent d'un moment dans leur vie où il y a eu un échec, une difficulté affective, peu importe, en fait, où ça les a profondément heurtés. Puis après ça, fait que là, je me dis, ah, ça va suivre, mais cette espèce de c'est ça, de confusion. En tout cas, moi, ça m'a perdu un peu. C'est peut-être probablement volontaire, là, ce que j'entends, mais une confusion dans le rythme qui fait que je me sentais tout le temps un petit peu retenu. On va pas dans un sens, on va dans tous les sens. Mm-hmm. Donc, l'élan vers le fameux impétu, je comprends le sens du mot, dans les images puis de la manière que ça a été monté, mais c'est ça, tout au long du film, okay. Ça m'a perturbé cette...
Mais non, c'est intéressant.
C'est intéressant. Je pense que le lien qu'il y a à faire avec ça, en fait, c'est à travers toutes les difficultés qui sont faites pour... parce qu'on s'entend, c'est un projet, Jim l'a pas mentionné, mais c'est un projet qui a été réalisé sur 5 ans, je crois, 5-6 ans.
Oui, sur 5 ans, oui.
Et je pense que à plusieurs reprises, dans ces 5 ans-là, ça leur a été facile pour la réalisatrice de simplement laisser tomber le projet à cause des nombreuses difficultés qui se mettent, notamment le changement, l'indisponibilité mm-hmm. de l'acteur en plein milieu ou durant le tournage. Je pense que c'est plusieurs choses qui auraient pu la forcer à simplement arrêter le film. Donc, je pense que dans ce sens-là, l'idée, c'était de continuer, peu importe. Peu importe ce qui se passe, de continuer à faire le film. Donc, dans ce cas-là, même si ton acteur qui joue ton personnage principal est soudainement indisponible pour une durée indéterminée, ben, de changer d'acteur, de prendre une femme pour reprendre le rôle, mm-hmm. je pense que c'était ça l'idée, c'était juste de simplement pas s'arrêter à ça, parce qu'on sait qu'il y a de nombreuses productions qui sont complètement juste arrêtées, tablettées, pour différentes raisons. Mm-hmm. Remplacer un acteur
par une actrice aussi.
Par une actrice.
Moi, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant.
C'est audacieux.
J'ai franchement, là, ça, c'est...
Ben, surtout comment c'est amené.
Assumé, là. C'est assumé, ouais.
En plus,
là.
Surtout comment
totalement.
C'est amené. Il y a des belles réflexions. Il y a des beaux... c'est ça. Ça amène des belles réflexions sur qu'est-ce qu'un homme, qu'est-ce qu'une femme. On est, en tout cas, cette espèce de... On revient sur la quête de sens, oui. Ou la quête identitaire un peu.
Mais en même temps, on comprend aussi qu'elle, au début du film, elle utilisait le personnage masculin dans cette... comme dans un... d'une manière de pas trop se dévoiler à travers le film, de mettre une certaine distance,
oui,
disons, entre elle et la réalité, mm-hmm. parce qu'on s'entend que la réalité est partout là, dans ce truc-là. D'ailleurs, j'aimerais, si vous me permettez, j'ai demandé à la réalisatrice si le film constituait justement pour elle une forme de guérison.
Non, mais absolument. Moi, je c'est certain que c'est un film qui a été initiatique et qui a été très, très libérateur.
C'est pas un film qui nous prend par la main, ça c'est sûr et certain. C'est un film qui est ambitieux au niveau scénaristique, qui est un peu complexe, qui est pas façonné là, comme on est habitué mm-hmm. de le voir au cinéma.
C'est inusité, en fait.
C'est inusité,
comme film.
C'est brut, en fait, j'ai envie de dire. C'est relativement brut et c'est beaucoup de choses en même temps. Faut presque faire le sens qu'on veut avec ça, comme on le fait, je pense, avec certains types de d'œuvres contemporaines, par exemple.
C'est drôle que tu amènes le sujet parce que moi, durant mon visionnement, il y a effectivement quelqu'un qui est sorti carrément en plein milieu de la diffusion. Donc, c'est quelque chose, c'est une façon d'approcher la réalisation qui est très amère, là, on va se le dire. C'est pas accessible à tous. Puis moi, j'avais une clientèle là, de cinéphiles aguerris. Là, je veux dire, je pense que j'étais... On parle souvent de mon âge vénérable. je suis allé de jour sur l'heure du... pardon, sur l'heure du midi et j'étais le plus jeune de la salle. Donc, ce qui n'est pas peu dire. J'avais des gens déterminés. Non, mais c'est-à-dire, il y avait des gens qui arrivaient là avec une... je pense qu'il y avait des attentes. Et puis de voir quelqu'un qui sort en plein milieu de visionnement, moi, ça m'a... je me suis dit, OK. Mais je comprenais
est-ce
aussi...
Est-ce que ça t'influence, ça? Est-ce que ça influence quelqu'un?
Non. Moi, personnellement, mon idée... Comme je dis, j'ai eu une profonde confusion, mais souvent, ce genre de film-là, c'est juste que je suis allé le voir dans un certain état qui n'était pas le bon, j'assume pleinement. Je le réalise... je l'ai réalisé à la sortie du film, je me suis dit, OK, non, malheureusement, ça, c'est un film dans lequel tu te dois d'être bien reposé et prêt à réfléchir, parce que tu ne pourras pas réfléchir on the spot quand tu te le fais envoyer, mais c'est clair que tu pars avec du bagage. Mais ça aussi, en soi, ça peut être quelque chose qui devient un irritant. En fait, ça n'a pas été le cas dans mon cas.
Mais c'est inconfortable. C'est certainement inconfortable.
Ouais, on peut se demander la justification. Ça me semblait évident qu'elle voulait... Mm-hmm. Il y avait quelque chose de très, très personnel et mm-hmm. soignant de sa propre vie privée.
Et il faut donc vouloir entrer dans cette intimité-là, j'ai envie de dire.
C'est tellement différent. Je veux dire, faut être prêt à dire « je ne sais pas à quoi m'attendre et on va jouer avec moi. On va m'instabiliser comme auditeur. » Puis ça, c'est pas tout le monde qui est prêt à le faire. Là. Tu sais, je veux dire, si tu t'attends un box-office, là,
ah ben
tu
non,
vas
mais
trouver
le...
ça...
Ah, mais je pense pas que les gens allaient voir ce
non,
film-là.
Non, clairement pas. Mais même dans mon auditoire que je disais, qui était clairement des gens qui étaient des initiés, puis des gens qui étaient... mm-hmm. En tout cas, qui donnaient l'impression d'être des gens qui ont déjà vu, puis qui aiment se faire une opinion, leur propre opinion, etc.
Oh,
il y en a qui n'ont pas supporté, tu sais.
Bon, mais écoute, mais ça, c'est à quoi que j'ai vu ça dans des films que j'ai trouvé très bons, là. Mais,
ouais, non, mais oui, c'est ça.
Des fois, c'est juste pas notre type de film, ou des fois, on oublie quelque chose sur le feu aussi. Tout est possible.
Oui, effectivement.
Oui, mais là, on t'a pas beaucoup entendu. J'aimerais...
avoir mes commentaires et mes avis sur le film. Mais en fait, moi, ce film-là, je trouve ça fantastique parce que je trouve que ça s'inscrit, on dirait qu'on est dans une lignée en 2019 de films différents, j'ai envie de dire, du moins pour les films que je vois depuis le début de 2019. Et je trouve ça vraiment intéressant parce que, vous savez, on dirait qu'il y a, je dis qu'il y a un millier de raisons de faire des films. Je veux dire, on est juste tellement habitué au cinéma américain, puis je reviens encore là-dessus, encore une fois, parce que je trouve que depuis le début de 2019, en tout cas, les films qu'on critique à Cinébrunch, c'est intéressant parce qu'on sort de ce cinéma-là, on tombe dans d'autres formes de cinéma, on tombe dans d'autres types d'histoires, mm-hmm. on tombe dans des expérimentations, et ça, c'est absolument fabuleux, je trouve.
Vers la fin du film, il y a une scène extrêmement forte, sans vouloir divulgâcher, on va l'appeler la scène du taxi.
Oui.
Durant cette scène-là, on voit le personnage interprété par Pascal Bussière verser des larmes, et j'ai demandé, et vous me pardonnerez l'anglicisme, jusqu'où c'était stagé comme moment à Pascal Bussière.
C'était pas beaucoup stagé, ça, je dirais. Non, moi, il m'a beaucoup ému par ses questions basiques dans le taxi. On était fatigués, j'avais pas dormi parce qu'on était à l'hôtel les deux nuits précédentes. J'étais, aussi dans une période un peu flottante, vraiment portée par le moment.
Et le fameux Bessic, qui est le nom du chauffeur de taxi, ben croyez-le ou non, c'est le premier taxi qui ont demandé. Mm-hmm. Ça s'est fait comme ça, là, c'était pas organisé, c'est ce que j'aime beaucoup de ça. On prend la réalité et on en fait une fiction, si on veut, avec. J'ai trouvé ça très bien pour ma part.
J'ai l'impression à certains moments dans le film que les scènes qu'on pense qu'elles sont comme plus du type documentaire... finalement, en arrière de tout ça, c'est plus fiction que ce qu'on croit. Et les scènes qu'on pense que c'est fiction, ben c'est beaucoup plus documentaire que ce qu'on croit. Donc, ça vient brouiller des cartes. Ça vient faire un truc complètement nouveau, complètement inusité. Après, on aime ou on n'aime pas, mais c'est fantastique parce que c'est une nouvelle façon de faire des films. Et on sort de ce canevas américain-là. Absolument. Qu'on se fait taper sur la tête depuis une centaine d'années. Et c'est très dur.
C'est difficile à faire. C'est dur de faire produire. Regarder aussi.
C'est dur de faire distribuer des films comme ça. C'est dur pour un cerveau qui n'est pas habitué de se faire mettre face à ça. Je veux dire, je comprends le côté des gens qui sont partis parce que quand tu t'habitues à un cinéma où on va te mettre des actions mm-hmm. à des minutes précises pour pouvoir garder ton attention... pour s'assurer, parce qu'on sait qu'au niveau de l'attention du cerveau, on connaît mm-hmm. ces données-là maintenant. On sait comment utiliser ça pour garder un spectateur attentif durant un film. Et là, on fait un cinéma qui n'est pas du tout fait avec ça. On tasse tout ça de côté et on va vers quelque chose qui est extrêmement authentique. On rentre ou on rentre pas. Ensuite, si on rentre pas, on rate le bateau.
Ben, c'est ça.
Il n'y a rien qui va venir te mm-hmm. faire accrocher.
Oui, puis ce ne sera pas tout le monde qui va accrocher à ce bateau-là, justement. Ça, c'est certain. Je ne sais pas, peut-être qu'André Jean n'a pas accroché, mais... je pense que c'est correct aussi comme ça.
Oui. Exactement. Moi, j'ai aucun problème avec le principe. Moi, clairement, ce que j'ai compris puis ce que je réfléchis après, c'est que peu importe mon appréciation finale, il y a clairement un état d'esprit dans lequel tu te dois d'être. Et cet espèce d'approche-là du documentaire t'amène plus à un côté réflectif auquel je m'attendais pas non plus. Puis je suis coupable autant, là. Je suis coupable, c'est-à-dire de pas avoir été dans l'état. Pour le voir, je crois.
Oui, et puis on n'a pas parlé vraiment du niveau technique, mais rapidement, je dirais, au niveau de la photographie, il y a des plans extraordinaires, surtout la portion, disons, plus cinématique, notamment des plans avec les miroirs qui sont extraordinaires. Oui. Ça a dû prendre beaucoup de temps à réaliser. C'est de toute beauté. Pour ce qui est de la portion, disons, plus making of, là, on sent évidemment un certain clash là, au niveau du type de caméra, donc de qualité d'image. Mais bon, évidemment, c'est certainement voulu jusqu'à un certain point pour créer cette dissociation-là. Pour moi, un poil dérangeant par moment parce que, bon, on perd le focus, on le reprend. Ça m'a un petit peu nuit dans mon immersion, mais bon, en tout cas, on va pas se leurrer. C'est pas un film de divertissement, on l'a bien dit, ça nous tend pas la main. On peut ressentir pas mal de choses pendant le visionnement et je dirais même après. Vos notes seraient quoi?
Personnellement, j'ai eu de la difficulté. Comme je dis, je vais arrêter de mettre des gants, là. Je veux dire, c'est pas... Non, mais c'est que... regarde, j'ai... Non, mais c'est ça. J'assume pleinement. Moi, ça a été un 7 parce que ça m'a... Problème de rythme. Mais comme je dis, probablement que c'est teinté par mon état d'esprit. Je savais pas à quoi m'attendre, puis ça m'a trop perturbé. J'ai trouvé que c'était trop long, saccadé. En fait, j'aurais peut-être apprécié plus y aller tous ensemble, puis après ça, se retrouver dans un café, puis en jaser.
Ça serait intéressant, mais ça, faudrait faire ça plus souvent. Donc, tu as donné
mais moi, 7. C'est 7 sur 10.
7 ouais, sur 10, ouais. Parfait. Mais Ina?
Bon, j'y vais avec un 8, alors.
Moi, écoutez, pour moi, Impetus, c'est un film qui réussit à nous faire vivre vraiment activement, mais quand même en douceur, l'immobilité, j'ai envie de dire, de l'introspection des personnages dans ce film-là. Je lui donne un 8 sur 10 aussi. J'aurais donné un peu moins pendant le film. J'aurais sans doute donné 7.5 dans ce coin-là parce que, justement, j'avais de la confusion puis tout ça. Mais suite à la discussion là, avec la réalisatrice et Pascal Bussière, on dirait que ça a vraiment clarifié des choses. Puis le film a maturé aussi par après. Puis je serais pas gêné de lui donner au moins un 8 sur 10, ça c'est certain. Peut-être 8.5 même. Là. Oui, il y a du matériel là-dedans.
Écoute, c'est peut-être moi qui est maussade cette
non,
semaine.
Non, mais c'est correct. Tu avais une fiche parfaite les autres années. Les autres
semaines.
Mais non, c'est ça. Excellent film. Je recommande d'aller le voir si vous aimez ce genre de film-là. Donc, film.
Oui, soyez avertis.
Soyez
avertis. Allez pas voir ça comme.
Comme vous allez voir le prochain Marvel, mettons.
J'irais même dire, allez pas voir ça comme si vous alliez simplement à l'épicerie ou au dépanneur.
Non, c'est ça. Faut être dans un certain état d'esprit réceptif pour voir un film comme ça. Et ça me fait un peu penser là, à l'état d'esprit qui serait nécessaire pour aller voir le fameux problème d'infiltration de Robert Morin. On est dans le même espèce de zone...
Définitivement.
Où les questions ne sont pas nécessairement dans les images. Ils sont dans ce qu'on en fait comme interprétation. Et je pense que...
Oui.
Je trouve ça intéressant. Je vais suivre ce que Jennifer Allen va faire comme prochain projet. On a eu vent qu'il y avait des choses dans l'air. On n'a pas de détails pour l'instant, mais voilà. Donc, c'était notre critique commune du film...
Impetus. Impetus.
Voilà. Alors, merci beaucoup pour votre critique.
Ben, merci bien.
Ben, merci à vous.
Et c'est déjà tout pour cette édition de Cinébrunch. On se retrouve la semaine prochaine à la même brunch heure et même brunch chaîne, donc plus précisément samedi 11h à CFLX, en rediffusion les mardis à la même heure ou toujours disponible en balado-diffusion sur notre site web cinébrunch.com ou sur votre téléphone intelligent via votre application balado favorite. Mon nom est Jim Boulay, en compagnie d'André-Jean Rouleau et Mélina Lopez-Nadeau. Merci beaucoup.
Merci à tous. Bonne semaine.
Merci. J'ai envie de vous dire bonne semaine.
Bonne semaine et bon impétus.